Alors, si j'ai bien compris, il n'y a pas de questions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y en ait ?
Personne ne sort tant qu'il n'y en a pas. C'est... Bloquez les portes, s'il vous plaît. Bloquez les portes.
Nous, nous avons des réponses. Hein.
Nous aurons... Je vais poser la première avant que tu te fasses. Non, alors, c'est dans peut-être dans la volonté de dialogue qui est au cœur de ces deux journées et demie, j'aimerais vous faire dialoguer tous les deux ensemble. Et ma première question, en fait, est la question Jacob. Vous avez évoqué, en fait, le texte de Mauss sur les techniques du corps. L'articulation me paraît géniale, j'avais pas pensé, mais c'est vraiment très très intéressant. Et donc la question que je voudrais vous poser, c'est si on suit le texte de Mauss, on apprend effectivement que les Anglais ne bêchent pas de la même manière que les Français, etc. etc. On a une manière de marcher traditionnelle, acquise. Donc ma question en fait est, dans vos recherches, dans les textes que vous avez pu collecter pour les lieux de savoir et les mains d'intellect, est-ce que vous pouvez répondre à la question de Philippe, c'est-à-dire, et que Philippe a posée à Jean-Louis, et qui est le titre de l'ouvrage de Jean-Louis, est-ce qu'il existe un philosophe français ? Est-ce que, si on suit effectivement le texte de Mauss, on peut se poser cette question ? En dessous, c'est surtout une question de méthode qui m'intéresse. C'est-à-dire que vos deux interventions soulèvent des questions de méthode. On voit bien la question de l'observation participante qui revient, la question de l'archive et du rapport entre les deux, ou du non-rapport entre les deux, et comment est-ce que ça s'articule, en fait, tout ça, dans une histoire intellectuelle. Bon, première question.
Christian commence. Ou je peux commencer ?
Oui, vas-y.
C'est vrai ?
Non, je...
Oui, non, c'est une très bonne question. Et bon, Jean-François Bert est un des meilleurs spécialistes du texte de Mauss sur les techniques du corps. Donc, je pense que tu as voulu introduire, si j'ai bien compris, la question de la capacité de produire des outils comparatifs qui soient acceptables. Alors, évidemment, ta question est absolument meurtrière, puisque j'évite d'aller rechercher une essence du philosophe français. Et puis, les limites de ce travail qui était, par définition, très étroite, et donc qui, encore une fois, ne sont qu'une proposition, ne permettait pas un travail comparatif en forme. Ceci dit, effectivement, c'est un piège que de parler du philosophe français pour y voir une sorte de forme culturelle stabilisée qui, je me suis intéressé, j'ai pas eu le temps. Il y a deux choses que j'ai pas évoquées. La première, c'est celle effectivement de quel, j'ai parlé de Descartes au début, mais c'était un peu, c'est le Descartes réinventé par l'historiographie qui m'intéresse plus que le Descartes du XVIIe. Encore que j'ai beaucoup utilisé les travaux de Diana Ribar sur la déprofessionnalisation, parce que c'est des choses qu'on retrouve au XXe siècle. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, on ne peut pas séparer le philosophe français de ce qu'on peut appeler l'institution philosophique, c'est-à-dire un ensemble de dispositifs, dont la philosophie en classe, là, que je redécris soigneusement, et qui permettent de penser des unités de temps assez longues. Je pense que de début de la République, où le principe de la liberté du professeur de philosophie est établi, jusqu'à la fin des années 70, il y a une forme d'unité qui permet de rapprocher, là encore c'est la question de l'échelle qui est importante, on peut le rapprocher, mais il y a une forme d'unité relative qui, me semble-t-il, s'est dissoute à partir de la fin des années 70, sous l'effet de transformations globalisantes, du rapport aux médias, de l'émergence de formes d'expertise dans la société qui ne se reconnaissaient plus dans la philosophie. Il y a plein de facteurs. Je pense qu'on est dans un autre monde aujourd'hui. Mais effectivement, la vraie enquête, ce serait de montrer comment, à Oxford ou à Cambridge, le philosophe se construit de manière tout à fait différente. Et en même temps, comment, puisque le paradoxe de la philosophie, c'est qu'elle n'a pas de patrie, elle est très prolétarienne en cela, et en même temps, elle est très ancrée dans, c'est ce que je voulais dire très malheureusement en parlant de terroir, c'est ce rapport entre une localité et puis la délocalisation que je crois Marc Abélès et Philippe soulignaient. Voilà, je n'ai pas répondu à ta question, mais Christian va y répondre.
Non, moi je peux simplement dire que, enfin, sur le philosophe français, je me garderai bien de porter un jugement, mais en revanche, sur des philosophes que j'ai peut-être davantage fréquentés, que Michel Foucault a croisé aussi, les philosophes grecs, c'est vrai que les techniques du corps sont absolument déterminantes. Et enfin, que l'on pense par exemple à l'école d'Aristote qui s'appelle les péripatéticiens, et que l'on, dès l'Antiquité, il y a donc un débat pour savoir si on les appelle comme ça parce qu'ils habitent, ils sont installés dans un portique des jardins qui s'appelle le Péripatos, ou si ce nom vient de leur pratique de philosopher en marchant, péripatein, c'est-à-dire faire le tour, marcher. Et j'avais comme ça esquissé une enquête sur ce que signifie faire de la philosophie en marchant, dans la rue, en étant accompagné, en étant allongé dans un banquet. La comparaison est effectivement déterminante.
Pour poursuivre en fait la question de Jean-François. Finalement, c'était au départ une question pour Christian Jacob, mais c'est aussi une question pour Jean-Louis. En vous écoutant et en vous lisant, dans le projet dans lequel on est engagé, on ne peut que souscrire d'une certaine manière à non seulement ce programme, mais à ajouter peut-être un
cas. L'améliorer.
La question se pose, une des grandes difficultés qu'on a eues. Sur le dossier Foucault, c'est celle des sources, évidemment. Et je prendrai, l'expérience que nous avons faite avec Jean-François en allant à la bibliothèque de la rue du Mont, en se disant « Ah, ben voilà, on commence l'enquête par la bibliothèque de la rue du Mont. » Et alors, on se rend, c'est pas très loin, c'est pratique, ça coûte pas cher. On va là-bas et on dit quelles traces il y a du travail de Foucault. Alors on dit, d'abord, comme on n'est pas humain, on découvre, enfin c'était ouvert aux autres, mais on découvre que c'est une bibliothèque en accès direct. Donc c'est quand même une spécificité. Et dès le début du siècle, ce qui était une des grandes spécificités de la rue. Alors évidemment, on se dit, ça explique aussi le fait que comme ça, Foucault effectivement passait. Pourquoi lui l'a fait et les autres non. Question de singularité. Mais plus généralement, c'est on sait, parce que c'est renseigné, que c'était le frère de Pierre Boulez qui était le grand bibliothécaire de la rue et sa femme. Donc on se dit, on va enquêter et on va peut-être trouver des fiches. Il y avait un cahier d'emprunt. Et puis on découvre que la bibliothèque a été remaniée entièrement, qu'elle a changé de place, il y a un nouveau bâtiment et que les cahiers on ne les a pas gardés. Et la seule chose qu'on a gardée, et là on cherche, on dit bon, et la bibliothécaire dit mais par contre j'ai quelque chose dans le dossier Foucault, et elle nous sort une fiche. On dit pourquoi une fiche? Elle dit parce que ça c'est un livre que Foucault n'a jamais rendu. Ce qui veut dire que fondamentalement, impossibilité de marcher derrière Foucault dans la bibliothèque et de voir comment il circulait. Et la seule trace, c'est un livre qu'il a sorti. À l'inverse, la Bibliothèque nationale, comme vous savez, jusqu'à l'arrivée de la gauche au pouvoir, les professeurs du Collège de France pouvaient aller à la Bibliothèque nationale et prendre des livres sans même d'ailleurs laisser un bulletin. Ou un fantôme. Donc à l'inverse, on a toute une partie des livres sortis dont on n'a pas de trace. Donc ma question c'est est-ce que et évidemment en pensant à l'ethnographie à la Latour, est-ce que dans le mouvement chantier il y a eu comment vous documentez cette ethnographie rétrospective qui est une vraie question. Vous avez commencé, ce qui est passionnant, avec des des images. On a, nous, tout récemment, récupéré un ensemble dans ce projet, un ensemble de photos de Michel Bonsillon, par exemple, de Foucault, au Collège de France, qu'on ne connaissait pas. Enfin, donc on voit maintenant ce qu'il a, et c'est cette photo qui est sur le programme, oui, là, qui est tout à fait inédite, puisque celle, la photo qu'on connaît, c'est la photo de l'autre côté, c'est-à-dire le visage. Là, on voit ce qu'il y a sur la table, les enregistreurs, enfin bref, son matos, quoi. Donc voilà, c'est un peu, c'est une question double, je voudrais vous poser.